Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1972, à l'occasion de la réédition du livre « Le socialisme », un livre qui était le fruit d'un cours donné par Émile Durkheim à Bordeaux entre 1895 et 1896, Jean Rabaud et Marcel Amrouche avaient réuni dans l'émission « Le point du septième jour » Raymond Aron, les historiens Pierre Birnbaum et Yvon Bourdet et Michel Collinet, militant socialiste historique, auteur notamment de « La tragédie du marxisme », du manifeste communiste à la stratégie totalitaire, un essai critique paru en 1948 chez Kalman Levy dans la collection Liberté de l'esprit que dirigeait Raymond Aron. Ils étaient là invités à débattre sur le socialisme selon Durkheim et du socialisme dans l'histoire. Un débat dans lequel dominait la voix de Raymond Aron et qui, en abordant la douloureuse question de la traduction du projet socialiste dans la réalité, était pour lui l'occasion d'adresser quelques légères piques aux tenants d'un socialisme d'autogestion, jusque-là introuvable, qu'étaient Yvon Bourdet et Michel Collinet. Le socialisme dans l'histoire, avec Pierre Birnbaum, Raymond Aron, Michel Collinet et Yvon Bourdet, dans Le Point du Septième Jour. Une émission proposée par Marcel Amrouche et Jean Rabaud, le 27 février 1972, sur France Culture.
Il n'y a de socialisme que le socialisme marxiste-léniniste.
Le seul socialisme efficace est le socialisme à la suédoise.
Le socialisme est fondé sur des bases scientifiques.
Le socialisme est fondamentalement un cri de douleur et un appétit de justice.
Pour dépasser ces querelles, un retour aux sources à l'occasion de la réédition du livre d'Émile Durkheim, Le socialisme.
Le point du septième jour, le socialisme, qu'est-ce que c'est ? On vient de publier aux presses universitaires de France un livre d'Émile Durkheim intitulé « Le socialisme ». Ce livre avait été édité une première fois en 1928, mais cette édition n'était elle-même que la reproduction d'un cours professé à la Faculté des Lettres de Bordeaux en 1895-1896. 1895-1896, c'était l'époque où le socialisme français était en plein essor. Quelques années auparavant, étaient entrés au Parlement pour la première fois plus de 40 députés socialistes avec Jaurès et Guède à leur tête, et en même temps, vers cette même époque, prenait son essor en même temps que le socialisme, l'école sociologique française. D'où l'intérêt de la réédition, d'où, je l'espère, l'intérêt de la discussion que nous allons entamer. Prennent part au débat M. Birnbaum, qui a procuré la réédition dont il s'agit, M. Raymond Aron, professeur au Collège de France, M. Yvon Bourdet, spécialiste du marxisme autrichien, et M. Michel Collinet, qui, entre autres ouvrages, a écrit un livre intitulé « Tragédie du marxisme ». Eh bien, messieurs, je vais vous proposer de commencer par une définition. Comment Durkheim définissait-il le socialisme ? M. Birnbaum.
Eh bien, ce livre est écrit à un moment, disons, où la France connaît de très graves troubles sociaux, et Durkheim en arrive à s'interroger sur l'origine de ces troubles sociaux. Mais il s'interroge en sociologue sur le socialisme. Alors qu'est-ce que c'est que ce phénomène social ? Qu'est-ce que c'est que ce fait social, comme il le dirait ? Eh bien, il s'efforce de déterminer, en tant que sociologue, avec ses propres méthodes. Ce qu'il appelle socialisme, c'est, disons, une espèce de socialisation de l'économie, l'économie se trouvant, disons, dirigée consciemment par un centre directeur qui pourrait être l'État. Les théories socialistes sont donc des théories qui mettent principalement l'accent sur la coordination de l'économie et qui du même coup tendent à laisser de côté peut-être les problèmes moraux. Or, Durkheim, en fidèle héritier d'Auguste Comte, s'interroge également veut s'interroger également sur les problèmes moraux, et c'est probablement de ce point de vue qu'il va s'efforcer de présenter les théories socialistes du XIXe siècle et du XIXe siècle principalement.
Raymond Aron ?
Je pense qu'il y a deux relations entre sociologie et socialisme qui nous sont présentées par ce livre. D'une part, Durkheim explique le développement du mouvement socialisme et le développement de la sociologie par la même cause fondamentale, c'est-à-dire les difficultés de la société industrielle. Et d'autre part, Durkheim prétend appliquer la méthode sociologique à la définition, à l'analyse, à l'étude du mouvement socialiste. Le mouvement socialiste étant d'ailleurs défini de manière assez confuse, simultanément par les idées dont il se réclame et par la réalité que ce mouvement constitue. Ce double caractère du mouvement socialiste que Durkheim veut définir ne va pas sans quelque équivoque, car dans la mesure où Durkheim prétend saisir le mouvement d'idées, il reste à savoir si l'idée qu'il considère comme fondamentale, c'est-à-dire faire arriver à la conscience claire des fonctions économiques aujourd'hui diffuses dans la société, il reste à savoir si une idée de cet ordre représente ce que les différentes doctrines socialistes ont voulu atteindre. Donc Durkheim était convaincu de donner une définition scientifique du mouvement socialiste, mais je pense que pas mal de socialistes ne se seraient pas reconnus dans la définition qu'il en donnait. Voilà, me semble-t-il, un point de départ possible pour la discussion, avec une fois de plus l'accent mis sur la parenté entre socialisme et sociologie dans la conception à l'origine du XIXe siècle de Saint-Simon et d'Auguste Comte et à la fin du XIXe siècle d'Émile Durkheim lui-même.
Michel Collinet.
Eh bien, je ne crois pas que le socialisme de la fin du XIXe siècle soit exactement semblable au socialisme de Saint-Simon et, si on peut dire, d'Auguste Comte, n'est-ce pas ? Le mot de socialisme qui date de 1834, je crois, n'est pas dans Saint-Simon. Saint-Simon avait une idée d'une société organisée, mais où les classes sociales seraient confondues. Or, le socialisme à la fin du XIXe siècle présente au contraire un caractère de lutte de classe assez vif. Déjà, après 48, la Commune, et vers les années 90, le socialisme de lutte de classe est le début, on peut considérer comme marxiste dans une certaine mesure, n'est-ce pas, avait déjà une certaine emprise. Et je pense que Durkheim a voulu, éliminant qu'on appelle les violences socialistes ou la lutte de classe, pas, chercher ce qui, dans le socialisme, serait assimilable pacifiquement dans la société dont il était témoin. Et je crois que c'est pour ça qu'il a entrepris son étude socialiste par Saint-Simon, d'ailleurs. Parce que Saint-Simon, ignorant les luttes de classe, avait une idée organiciste à la société.
Vous permettez que je vous interrompe ?
Oui,
je crois qu'il est excessif de dire que Saint-Simon ignorait la lutte de classe. Ce qui me paraît caractéristique du mouvement saint-simonien par opposition au mouvement marxiste, c'est de ne pas considérer la lutte de classe comme le ressort exclusif du mouvement historique. Mais Saint-Simon, si vous prenez l'exposition de la doctrine de Saint-Simon, le livre classique Enfantin et Bazar, il est question de la rivalité, de la lutte entre les classes sociales, et il ne faut pas exagérer l'idée de l'accord. Et même chez Auguste Comte, qui passe par excellence pour le sociologue ou le philosophe du consensus, de l'accord, il y a la constatation de la lutte entre les employeurs et les employés. C'est dans l'idéal qu'il doit y avoir consensus. Dans la réalité de la société industrielle, ils reconnaissent tous le fait des luttes. Je pense que Birnbaum sera d'accord avec moi là-dessus.
Le socialisme de Durkheim, pourrait-on dire, c'est une tentative de synthèse du consensus d'Auguste Comte et de la lutte des classes de Marx. Auguste Comte et Marx, ayant tous deux été influencés par Saint-Simon, Durkheim s'efforce, disons, de reprendre ces deux aspects de Saint-Simon et d'en donner une synthèse.
Yvan Bourdet, ou Michel Collinet d'abord.
Dans Saint-Simon, il n'y a pas de texte concernant la lutte de classe. Je ne l'en connais pas et je ne crois pas qu'il y en ait. Il y a les industriels qui comprennent dans sa pensée les patrons et les ouvriers.
Et tous les producteurs.
Et les producteurs. Ils ne les séparent pas, à aucun moment, dans ces textes qui sont connus naturellement. Ils ne les séparent jamais. Et ce qu'il. Quand il imagine une nouvelle constitution, n'est-ce pas, avec des académies, des trois parlements, etc., les ouvriers et les producteurs, tout le monde producteur, ne sont pas séparés des patrons.
Il s'interroge tout de même sur la classe qui souffre.
Alors, il donne.
Il se prononce pour l'amélioration
si vous
de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre.
Vous avez raison, et j'ai souvent reproché à Gourvitch de considérer Saint-Simon comme l'ancêtre direct de Marx, alors que l'essentiel de la lutte de classe ne se trouve pas chez Saint-Simon. Mais il y a chez Saint-Simon, numéro un, les classes inutiles, les classes de l'Ancien Régime qu'il faut éliminer. Et il y a d'autre part la classe la plus nombreuse des travailleurs qui, actuellement, d'après Saint-Simon, a un sort, un destin parfaitement injuste. De telle sorte que s'il est vrai qu'il voit dans l'avenir une solidarité d'intérêt entre tous les travailleurs, il ne nie pas que dans la société actuelle, les travailleurs les plus nombreux n'aient pas la part qui leur revient des biens de ce monde. Et si vous prenez Auguste Comte, qui sort directement de Saint-Simon, ou qui a une affinité avec Saint-Simon, il ne nie pas un seul instant la lutte entre les employés et les employeurs. Il dit simplement que cette lutte est pathologique et qu'il faut la résoudre par une organisation meilleure et par la morale.
Yvon Bourdet.
Mais je voudrais d'abord, pour revenir à Durkheim,
il faudrait revenir à Durkheim, oui.
Donner,
nous n'avons pas quitté.
si, tout de même. Donner une impression globale que j'espère pour avoir le temps de justifier au cours de la discussion, c'est que j'ai été vivement frappé par le caractère étrange et comme appartenant à une autre planète de ce discours sur le socialisme, à tel point que je me demande si les admirateurs de Durkheim ont intérêt à faire connaître ce texte. Car ce qu'il dit du socialisme ne correspond absolument pas à ce que, ordinairement, sur le plan d'ailleurs de la sociologie des idées, on appelle actuellement socialisme. Il ne fait aucune allusion ni à la lutte des classes, sauf pour dire que ce n'est pas important, ni à l'amélioration de la condition ouvrière, disant que c'est une conséquence de la théorie du socialisme et que également cela est secondaire. Il a une vision purement morale du socialisme.
Dirigiste
et,
aussi.
Non seulement dirigiste, mais on ne sait pas dirigé par qui. C'est là, je pense, la plus grosse faiblesse de ce système, c'est que c'est une sorte de théologie sans Dieu. Il y a le socialisme qui espère réaliser le bien-être du peuple, sans que le peuple d'ailleurs, sans que le prolétariat ou les hommes ou les travailleurs aient leur mot à dire, car de même qu'autrefois, la religion et le pouvoir politique disaient ce qu'il fallait pour limiter les besoins. Maintenant, ce sera le socialisme dont on ne sait sur quoi il est fondé. Il n'est pas fondé sur le consensus des travailleurs parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes savoir quels sont leurs besoins ni pouvoir les limiter. Il est dominé par une autorité dont à aucun moment Durkheim ne donne les moyens de l'obtenir ni le fondement. Alors, c'est pourquoi il me semble que il n'est en ce sens-là pas question du tout de socialisme dans ce livre. C'est un socialisme théorique, abstrait, qui, à mon avis, mérite à peine le nom de socialisme. Si on prend, d'ailleurs, comme doit le faire un Durkheimien, le sens des mots tels qu'ils sont dans l'usage courant. Car si, en un certain sens, on peut dire que le socialisme de Durkheim qui comporte le recours aux corporations et qui exalte le nationalisme peut, en un certain sens, ressembler au socialisme que voulait faire le maréchal Pétain. Et d'autre part, si on tient compte d'un autre aspect, qui est qu'il veut limiter l'héritage, à tout le moins, ça peut ressembler à certaines théories américaines ou au socialisme de Servan Schreiber. Mais ce n'est pas ce qu'en général on appelle le socialisme.
Mais alors là, précisément, je souhaiterais que les uns et les autres vous abandonniez la critique proprement dite de la pensée de Durkheim et que, ayant constaté que sa définition du socialisme n'était pas une définition convenable, congrue, vous essayez d'en fournir une, chacun, à la lumière d'expérience.
Malgré tout, avant d'abandonner Durkheim, je voudrais dire, devant la critique un peu sévère qu'on vient de lui faire, que ce livre est un livre qui honore la pensée de Durkheim et qui devait être édité pour justifier l'intérêt, disons, pris par tous les sociologues de l'école durkheimienne à la question sociale. et, disons, au problème du socialisme. Ce livre ne peut pas se ramener au maréchal Pétain, comme on vient de le dire.
Je ne crois pas que le maréchal Pétain ait jamais prononcé le mot socialisme,
et le socialisme, surtout dans ce livre, et le socialisme dans ce livre est relié de façon très précise, il me semble que ça n'a pas été dit, à l'existence du capital et à la séparation entre le capital et le travail. Durkheim dit de façon très précise qu'il n'y a de socialisme que parce que précisément la société est organisée de façon pathologique, étant donné qu'il y a une différenciation infranchissable entre, d'une part, le capital, d'autre part, le travail. Or, que propose Durkheim ? C'est précisément de mettre fin à ce qu'il appelle les conditions inégales dans la lutte. Il veut donc mettre un terme à la propriété privée des moyens de production et à la transmission héréditaire sur toute cette propriété privée. Il me semble que ne pas avoir là au moins l'un des aspects fondamentaux des courants socialistes du XIXe siècle, c'est vraiment chercher une très mauvaise querelle à Durkheim.
Je pense qu'il faudrait distinguer dans la critique de M. Bourdet deux aspects possibles ou deux cibles. Premièrement, est-ce que la définition que Durkheim donne du socialisme est bonne ou est-ce qu'elle est la seule possible ? Je pense que tout le monde reconnaîtra qu'elle n'est pas la seule possible. Cela dit, au point de vue de l'histoire des idées, elle a un intérêt éminent, car elle met en lumière une idée fondamentale de la tradition socialiste, qui est l'idée d'organisation. L'organisation de la vie économique substituée au libéralisme économique est un des thèmes fondamentaux de la pensée socialiste, et sur ce point, Durkheim a raison. La deuxième question, est-ce que ce livre est un témoignage intéressant sur la manière dont les normaliens intellectuels, philosophes français, entre 1890 et 1900, se posaient le problème social ? Là encore, je crois qu'Yvon Bourdet dira « Oui, nous posons le problème aujourd'hui, ça ne signifie pas qu'il n'est pas intéressant de voir comment il le posait à l'époque ». Et puis alors, il y a un troisième aspect, qui est celui que vise Bourdet, c'est Durkheim, dans ses idées de solution du problème social, est-il notre contemporain ou non ? Alors sur ce point, je répondrai, il n'est plus notre contemporain, car la manière dont il ramasse l'idée socialiste dans le thème de l'organisation suppose la dévalorisation de la lutte de classe, l'indifférence à la propriété individuelle des instruments de production, la méconnaissance du rôle du marxisme, tout phénomène ou toute tendance qui s'explique très bien entre 1890 et 1900, mais nous sommes presque un siècle après, et nous pensons nécessairement autrement, parce qu'entre-temps est survenue la révolution bolchevique et toute la suite. Cela dit, nous avons connu, sinon Durkheim, du moins ses successeurs immédiats à Marcel Mauss, et il serait évidemment gaulois, si je puis dire, ou pas sérieux, Yvon Bourdet l'acceptera, d'imaginer qu'un Durkheim ou un Marcel Mauss se serait reconnu dans le régime de Vichy. Pas un instant, Yvon Bourdet nous soutiendra une théorie de cet ordre. Si on peut les interpréter dans ce sens, c'est certainement contre leurs intentions explicites.
D'ailleurs, M. David, dans sa préface, la préface aux leçons, dit explicitement, c'est donc que c'était une interprétation vraisemblable, il dit « le néocorporatisme qu'on a vu ces dernières années, naturellement, Durkheim ne le connaissait pas, et c'est pourquoi qu'il a fait peut-être sa théorie du néocorporatisme qu'il n'aurait pas faite si. » Mais enfin, il n'en reste pas moins que ce qu'il disait pouvait être interprété dans ce sens, puisque M. Davy prend soin de dire que ce n'est pas ce corporatisme-là qu'il voulait. Mais de notre côté, je pense que pour donner un peu de corps à ce que j'ai dit, je voudrais citer quelques formules de Durkheim dans ce livre, pour montrer l'énorme faille qu'il y a, l'énorme différence, les deux mondes séparés qu'il y a entre cette époque et la nôtre. Je reconnais, comme M. Aron vient de le dire, que c'est intéressant pour la sociologie des idées, mais ce n'est pas de ça que nous parlons tellement. Nous parlons de la définition du socialisme. Alors voici ce qu'il dit. « Ce qu'il faut pour que l'ordre social règne, c'est que la généralité des hommes se contente de leur sort. Mais ce qu'il faut pour qu'ils s'en contentent, ce n'est pas qu'ils aient plus ou moins, c'est qu'ils soient convaincus qu'ils n'ont pas le droit d'avoir plus. Et pour cela, il faut de toute nécessité qu'il y ait une autorité dont ils reconnaissent la supériorité et qui disent le droit. Tel est précisément le rôle, dit Durkheim, que jouait autrefois la religion, qui avait pour but de dire aux gens « vous serez heureux plus tard, donc restez dans votre condition inférieure ». Et quel était aussi le rôle de l'État qui, dirigeant l'économie, limitait les besoins, limitait les satisfactions. Or, d'après Saint-Simon, Durkheim s'aperçoit que ces autorités-là sont en décadence et même n'ont plus d'autorité, hein, et il veut fonder une nouvelle autorité qu'il imagine sous forme de corporation, dont on n'a pas vu justement aucune réalisation, dont on n'en voit pas le commencement. C'est pourquoi ça, même d'un point de vue sociologique, même d'après les principes de Durkheim, sa théorie est en dehors de l'histoire et ne correspond à absolument aucune direction de salut du prolétariat, duquel d'ailleurs il ne se préoccupe point, car il montre à plusieurs reprises que ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'élévation du niveau de vie, ni les biens matériels. Il dit « le socialisme n'est pas une affaire d'estomac », la formule est textuelle. « L'amélioration du sort des ouvriers n'est qu'une conséquence du socialisme », dit-il, « une conséquence même que le socialisme espère de l'organisation économique, mais que le socialisme réclame ». Mais qu'est-ce que c'est qu'espérer une organisation économique meilleure quand on n'a aucun moyen pour l'atteindre et lorsqu'on ne donne pas comme but l'amélioration de la condition de l'ensemble des hommes?
Au point où nous en sommes, je pense qu'il nous faudrait aborder deux questions. Compte tenu du fait que la définition que Durkheim donnait du socialisme est soit périmée, soit fausse dès son origine, soit les deux, il nous faudrait d'une part nous demander quelle idée nous pouvons vous faire du socialisme après ces trois quarts de siècle écoulés depuis la première sortie de ces idées de Durkheim. Et deuxième question, et cette école sociologique française dont Durkheim était le chef, que peut-on en penser depuis le même laps de temps? Ce qu'elle a donné est-elle aussi valable en matière proprement sociologique et qu'il est aussi peu valable, à votre avis, en matière de socialisme?
Pas d'avis unanime, enfin...
Pas d'avis unanime,
Bourdet a décidé de jouer le procureur. Si on jouait le procureur à l'égard des auteurs qu'il aime, je crois qu'on obtiendrait avec la même facilité des résultats équivalents. Et personnellement, je n'aime pas jouer le rôle de procureur à l'égard des hommes qui ne sont plus là pour se défendre.
Vous êtes là.
Bien que personnellement, je n'ai aucune sympathie particulière pour la pensée de Durkheim, je suis de tempérament aussi anti-durkheimien que possible, je suis tout de même choqué par le ton de réquisitoire adopté par Yvon Bourdet, car si on adoptait le ton de réquisitoire à l'égard, disons, d'un auteur qu'il aime comme Marx, et si on prenait comme référence la Grande Purge, on pourrait dire aussi que c'est l'application des idées d'un homme qu'il aime. Enfin, ce genre d'argumentation n'est pas une argumentation sérieuse. Mais alors, revenons
sur... Mais vous savez, nous sommes pourtant au cœur du débat.
Il faut ajouter une chose, c'est que Durkheim n'est pas un réformateur social. Durkheim n'est pas un homme politique. L'essentiel de son œuvre est une œuvre scientifique. Je pense qu'en ce qui concerne la transformation de la société, il s'est sur un grand nombre de points trompé, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu quelles étaient les forces directrices, il a sous-estimé la lutte de classe. Cela dit, il n'est pas non plus sûr que ceux qui ont considéré que la lutte de classe était le moyen de rénover la société aient donné des résultats excellents.
Bourdet vient de dire il y a un instant...
C'est Pierre Bienbaum qui parle.
Bourdet vient de dire il y a un instant, que, en citant Durkheim d'ailleurs, que pour Durkheim, le socialisme n'était pas une question d'estomac. Et il y voit là l'abomination de la désolation. Eh bien, je dirais que de même que le communisme aujourd'hui n'est pas simplement une question du goulash et encore plus de goulash, de même, le socialisme n'est pas seulement une question d'estomac, comme l'avait dit Durkheim. Et il me paraît fondamental de dire aujourd'hui que Durkheim était un réformateur social, car Jaurès, lui, ne s'y est pas trompé. Jaurès a été influencé totalement par la pensée de Durkheim. Il l'a d'ailleurs reconnu lui-même dans de très nombreux textes, et il a dit sans cesse, enfin, il y a eu des liens constants entre Jaurès et Durkheim. Jaurès allait voir Durkheim à Bordeaux. Jaurès, il y a eu, disons, des liens très étroits, et c'est, à mon sens, le point le plus important, entre l'école française de sociologie et l'école française de socialisme. Entre le socialisme à la française, c'est-à-dire celui de Jaurès, et la sociologie. D'ailleurs, tous les sociologues qui ont fait partie de l'école durkheimienne, comme Marcel Mauss, mais aussi comme Simian, comme Halbwachs, comme Hertz, ont presque tous, sinon la plupart, adhéré au socialisme de Jaurès, milité comme de véritables militants en faisant les campagnes électorales, descendu dans la rue, rempli des tracts, distribué des affiches. Ils ont véritablement eu une action de socialiste, disons, avec Jaurès. Alors, ramener cela à une pensée de droite conservatrice, il me semble qu'il y a là quand même un abus.
J'abandonne pour l'instant mon rôle de meneur de jeu pour contester ce que vous venez de dire en qualité de ce qu'on appelle quelquefois un spécialiste de Jaurès. Je ne crois pas que Jaurès ait été aussi influencé par Durkheim que vous le dites. Qui ait eu des rapports avec eux, que Jaurès se soit beaucoup intéressé aux travaux de l'école sociologique de Durkheim, et qu'il ait lu l'année sociologique avec un vif intérêt, c'est certain. Mais enfin, son socialisme était synthétique, et il était, non pas entièrement, pas entièrement du tout, mais il était marxiste pour une large part. Jaurès a professé jusqu'à la fin de sa vie l'idée qui nous paraît à l'heure actuelle assez peu scientifique de mission historique du prolétariat, et il s'affirmait depuis 1891, il s'est affirmé jusqu'à la fin de sa vie pour la lutte des classes. N'est-ce pas ? Cela dit, sur la théorie de l'État, il n'était pas marxiste, mais enfin, nous n'entrerons pas dans les détails. Ceci n'est qu'une incidente. Qui demande la parole maintenant ?
Je voudrais dire un mot, il n'en reste pas moins qu'un homme comme Marcel Mauss, que j'ai très bien connu, a milité dans le socialisme de Jaurès. Personnellement, je crois que certaines des idées de Durkheim avaient des implications conservatrices et un ton conservateur. Dans la mesure où il était influencé par Auguste Comte, qui lui-même était influencé par la contre-révolution, ce n'est certainement pas surprenant. Mais à titre de personne ou de citoyen, ils appartenaient au mouvement socialiste. Ce qui ne signifie pas que certaines de leurs idées ne rendaient pas un ton ou n'avaient pas un style différent. Et encore une fois, ils pensaient dans leur temps, et ce qu'ils pensaient à l'époque faisait partie du mouvement général que l'on peut appeler le socialisme français, très différent du socialisme marxiste.
Et ce qu'il faut dire, c'est que ce sont précisément ces socialistes-là qui ont participé en masse à la création et qui ont écrit dans le journal L'Humanité, dès sa parution. C'est à eux qu'a eu recours, entre autres, bien évidemment, Jean Jaurès, lorsqu'il a créé le journal L'Humanité.
Je voudrais répondre un petit mot sur l'aspect procureur. Je dis simplement ce que je ressens. Et d'autre part, je ne pense pas que ce soit non plus de bonne méthode de dire si on critiquait les auteurs que vous supposez que j'aime, on pourrait dire, etc. Parce que, de toute façon, le Marx que j'aime n'a aucun rapport avec les purges, ni même avec l'État soviétique, car je considère que l'État soviétique est durkheimien en un sens, puisque c'est un État qui a pris en main tous les pouvoirs et l'organisation de l'économie, mais ce n'est pas d'après un consensus de l'ensemble du peuple, de l'ensemble du prolétariat.
Il est socialiste au sens durkheimien, il n'est pas durkheimien, cet État,
oui,
c'est juste le contraire.
On pourrait dire, en un certain sens, que dans l'État actuel de l'État, par exemple, soviétique, il y a une certaine réalisation, et c'est peut-être la grande valeur ou la seule valeur même de ce livre, de cette visée de Durkheim, d'un État...
Que Durkheim condamnait.
Non. Durkheim dit qu'il y a socialisme lorsque l'ensemble de l'économie est organisée par un centre conscient.
Et lorsqu'il y a consensus, adhésion aux
normes,
aux valeurs, aspect moral.
Pour ce consensus, il n'avait absolument aucun moyen qui permette de l'atteindre. Et il ne s'intéressait pas à ce consensus. C'est pourquoi, en un certain sens, donc, ou bien sa théorie est en l'air et ne signifie rien, ou bien elle n'est réalisée que de cette façon.
Je voudrais ajouter une chose. Dans la conception durkheimienne, le consensus et l'organisation de la vie économique ne pouvaient pas exclure un autre aspect fondamental de sa pensée, c'est-à-dire la liberté de l'individu. Car il considérait qu'était constitutive de la société moderne l'indépendance individuelle et la liberté de penser et la dignité de l'individu. Alors, la difficulté fondamentale de la pensée durkheimienne, c'est, si je puis dire, l'oscillation entre les deux termes extrêmes. D'un côté, le caractère sacré de la société, qui est le principe de l'autorité, mais d'autre part, dans la société moderne, disait-il, le sacré que la collectivité doit respecter et accomplir, c'est l'indépendance de l'individu. De telle sorte que, pour suivre votre idée, une société de type soviétique ou de type national-socialiste ou de type fasciste manque à ce qui, aux yeux de Durkheim, est le sacré de la société moderne, c'est-à-dire le respect de l'indépendance individuelle. En ce sens, vous ne prenez de Durkheim que l'aspect que je vous abandonnerai parce que je ne l'aime pas, c'est-à-dire la société considérée comme l'origine du pouvoir et du sacré, mais ce pouvoir de la société devait respecter l'indépendance individuelle.
Il y a tout de même cette idée que l'autorité doit s'opposer à la satisfaction des besoins
et les limiter. C'est l'idée qu'aucune société, aucun individu ne peut se passer d'une moralité. Et, l'idée que la société a besoin d'une moralité est plutôt une idée banale qu'une idée révoltante.
Oui, mais depuis Kant, la morale véritable, c'est celle qu'on peut s'imposer à soi-même, et non pas celle qui est imposée
Michel par l'autorité.
Ça différencie Durkheim de Saint-Simon, car Saint-Simon faisait pas un grand cas de la liberté individuelle. Il a même épérisé systématiquement la liberté individuelle, dans plusieurs textes. Et il s'opposait aux libéraux de son époque, qui prônaient la liberté individuelle indépendamment des conditions sociales. Et il a pris le contre-pied des libéraux de son époque dans cette partie-là. Et Durkheim, évidemment, est un républicain de 1895 qui admet, mettons les droits de l'homme, que Saint-Simon avait en horreur, n'est-ce pas ? Alors.
Je ne dis pas que la pensée de Durkheim ne soit pas contradictoire, ou je ne dis pas qu'il ait résolu pleinement les deux termes, c'est-à-dire d'un côté le pouvoir de la société, d'autre part le sacré de l'indépendance individuelle. Mais je dis que si l'on cherche les implications de sa pensée, on n'a pas le droit de laisser de côté un des deux aspects fondamentaux, c'est-à-dire le respect des droits individuels qui fait que tous les régimes auxquels on a fait allusion, il les aurait rejetés avec horreur.
Oui, naturellement.
Je pense qu'au point de vue de l'histoire des idées, c'est important de le marquer.
Absolument.
Oui, Durkheim a écrit dans une période de dérèglement social, de grève extrêmement violente.
Il le croyait, mais...
C'était de casse-ville, il y avait même de grandes...
On a vu pire depuis.
Enfin, ça, on ne peut pas lui reprocher à nouveau.
C'était un bourgeois de 1895. Il avait le sentiment d'une société déchirée, alors que nous avons vu beaucoup mieux au cours du XXe siècle.
Mais ce qu'il a voulu, face à cette société déréglée, anomique, comme il l'appelait, c'est s'efforcer de retrouver un organe, enfin de découvrir un organe qui pourrait reconstruire, redonner des normes à une société dépourvue de normes, étant donné l'affrontement entre le capital et le travail. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui doit être conservé, qui mérite attention, et qui d'ailleurs a retenu assez les socialistes de son époque.
J'ai fait jusqu'ici des efforts absolument vains pour
que nous définissions le socialisme.
Pour que vous définissiez le socialisme à notre époque.
Bon, alors...
Allez, mouillez-vous.
Oui, non, mais d'accord. Alors, la première remarque que je voudrais vous faire, c'est que si l'on parle du socialisme arabe, du socialisme israélien, du socialisme soviétique, du socialisme d'ici ou là, le mot a perdu toute espèce de signification précise. C'est devenu un mot du langage courant, un mot passe-partout par lequel on désigne toute espèce de régime auquel on attribue toutes les vertus. Et il est absolument impossible de trouver une définition rigoureuse qui s'applique à tous les régimes qui se déclarent socialistes. Maintenant, il me paraît personnellement qu'on peut repartir de la définition durkheimienne à condition de la préciser. Il dit qu'il s'agit de rendre volontaire et consciente un certain nombre des fonctions économiques. Eh bien, le socialisme consiste effectivement à rendre volontaire et consciente un certain nombre de fonctions économiques. Alors, propriété des instruments de production. On peut décréter que c'est l'État qui se chargera lui-même de gérer un certain nombre d'entreprises, et c'est une forme de socialisme. On peut considérer que l'État choisira les gestionnaires d'un certain nombre d'entreprises, et c'est une forme de socialisme. On peut considérer que l'État, par la fiscalité, modifie la répartition des revenus, et à nouveau, c'est une expression de cette volonté consciente s'appliquant au jeu des forces économiques. En gros, je dirais que les deux tendances de la pensée socialiste sont d'une part la modification du statut de propriété, et, ou disons du mode de gestion, pour faire plaisir à Bourdet, de façon à ne pas oublier l'autogestion, et de l'autre côté, de contrôler ou de supprimer ou de modifier ou de corriger ce que les libéraux appelaient le marché. Le socialisme a deux pôles, dont l'un est le pôle planificateur et l'autre le pôle de la propriété collective, quelle que soit la modalité de la propriété collective. C'est en ce sens que le mot socialiste peut être pris en un sens rigoureux. Alors, vous voyez que cette définition du socialisme peut se tirer de la définition durkheimienne, mais à condition de lui donner un sens précis, alors que la formule de Durkheim est extrêmement vague. Et puis alors on peut ajouter les modalités, selon qu'on accorde beaucoup d'importance ou peu d'importance à la lutte de classe, selon que l'on croit ou non à la mission historique du prolétariat, et ainsi de suite. Vous voyez, je me suis mouillé.
Michel Collinet.
Eh bien, la gestion des moyens de production par l'État, par un organisme central qui sera fonctionnarisé, peut-être une définition du socialisme, mais une définition du socialisme qui se rapproche beaucoup de ce qui se passe dans l'État totalitaire. et que nous pouvons mettre en doute. Je préférerais la recherche d'une autogestion.
Non, mais vous cherchez le socialisme idéal. Ah, moi, je cherchais à définir ce qu'est le socialisme dans sa réalité. Ah non, moi, je cherchais ce qu'est le socialisme dans sa réalité historique d'aujourd'hui.
Ah oui, socialisme dans sa réalité historique.
Ce qu'il devrait être, c'est une autre question.
C'est étatiste.
Enfin, c'est les deux directions, ça consiste à l'intervention de l'État pour modifier le jeu spontané de l'économie libérale. C'est la tendance fondamentale du socialisme.
Oui, l'intervention unique
de l'État. Oui, mais est-ce une tendance uniquement socialiste ?
Non, mais c'est...
Certainement pas.
Dans le socialisme, qui a une certaine influence en Occident, n'est-ce pas ? On met en avant l'autogestion, on met en avant l'indépendance, l'initiative des masses ou des syndicats ou de toutes les organisations populaires, n'est-ce pas ? On tend à minimiser tout de même le rôle de l'État. On tend à minimiser, j'entends, sans le supprimer, bien entendu. Et ce socialisme-là est peut-être en contradiction, je ne sais pas s'il le sera, puisqu'il n'existe pas encore, mais peut-être en contradiction avec le socialisme totalitaire, tel qu'on voit dans les pays de l'Est, par exemple, qui sont purement étatiques.
Oui, mais vous comprenez, une fois déclaré que l'on ne veut pas maintenir la propriété privée des instruments de production et la gestion des instruments de production par des individus ou par des sociétés anonymes, on peut hésiter entre plusieurs modalités. L'étatisation en est une, l'autogestion en est une autre, qui jusqu'à présent... n'a pas connu de réalisation convaincante. Il y a des systèmes mixtes. Exactement. Mais je crois que Bourdet, là-dessus, a certainement à dire.
Mais je crois que si on veut parler de socialisme aujourd'hui, il faut tout de même tenir compte de ceux qui veulent le réaliser et des moyens par lesquels on veut le réaliser. Or, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'on puisse parler de socialisme comme Durkheim, simplement en décrivant dans l'abstrait un système avec un centre conscient de lui-même. Il faut voir comment ce centre peut être obtenu. Or, actuellement, le centre est dirigé par une autorité qui existe. Dans les pays occidentaux, c'est le capitalisme privé. Dans d'autres pays, c'est une bureaucratie qui s'est cooptée d'une façon obscure. Dans les deux cas, les gens qui travaillent n'ont pas de possibilité d'intervenir dans la gestion de l'ensemble de l'économie ou même dans la gestion de leur propre vie. Alors, à mon avis... il ne peut y avoir socialisme au sens moral du terme que lorsque cette coupure de la société en classe, une classe qui dirige ou qui possède, ou même qui ne possède pas formellement, mais qui en réalité a le pouvoir comme si elle possédait pour diriger l'économie, pour déterminer l'utilisation de la plus-value, etc. Alors l'autogestion n'existe pas, cela est vrai, mais il y a l'idée de l'autogestion. Or, quand Durkheim parle du socialisme, le socialisme n'existe pas. Pourtant, il écrit un livre sur le socialisme en se référant aux idées exposées par des penseurs socialistes. Alors, de même, il est tout de même important d'un point de vue sociologique que l'autogestion soit une chose dont tout le monde parle, même en des sens différents. Et d'autre part, il y a des régimes comme la Yougoslavie, à un certain moment l'Algérie, qui se déclarent autogestionnaires ou autogestionnistes, ou voulant réaliser l'autogestion. Ça, c'est tout de même un phénomène sociologique. On peut certes dire que l'autogestion parfaite n'y est pas réalisée, puisque par exemple en Yougoslavie, le véritable pouvoir appartient à l'État, appartient à l'armée, à la police, au chef charismatique qui est Tito. Donc les entreprises n'ont qu'une autonomie limitée, elles sont en état de co-gestion et non pas d'autogestion. Il n'en reste pas moins que cette idée est une idée qui est une idée force actuellement dans le mouvement ouvrier et qu'on ne veut pas de libérateurs qui s'emparent de ce centre de décision conscient pour diriger les peuples dans la bonne direction. On ne sait pas d'ailleurs d'où ce centre conscient tire la vérité pour diriger les peuples dans la bonne direction. Il faut trouver un système qui permette établissant un aller-retour perpétuel entre la base et le sommet, d'avoir un centre conscient qui ne soit pas une domination, qui soit une direction sans cesse contrôlée par ceux qui la subissent, et non pas ce que quelqu'un du haut d'un Sinaï quelconque indique au peuple comme étant la bonne direction.
Personnellement, je pense qu'il y a eu dans le mouvement socialiste trois interprétations, trois écoles ou trois tendances. La première est ce que j'appellerais la social-démocratie, c'est-à-dire les réformes progressives modifiant la répartition des revenus, les lois sociales, atténuant l'intervalle entre les classes. Disons pour simplifier que la forme la meilleure que l'on connaît de cette progression social-démocrate, c'est un pays comme la Suède. ce qui est un des aboutissements possibles d'un mouvement socialiste effectif qui recevait les suffrages de la classe ouvrière. C'est donc un mouvement ouvrier qui a abouti à ce qu'on appellera en simplifiant un régime social-démocrate. Il y avait une deuxième version possible du mouvement socialiste et en particulier du marxisme, c'était de considérer qu'on ne pouvait transformer la société que par une révolution radicale et violente. C'est l'interprétation qui a été choisie par les bolcheviks et qui a abouti aux régimes que l'on connaît en Europe de l'Est, qui sont des régimes de planification économique, mais qui ne sont pas des régimes libéraux, et où la distinction entre la minorité qui gouverne et la grande masse qui obéit n'a pas été supprimée. La troisième tendance du mouvement socialiste, je l'ai toujours pensé, et c'est la plus séduisante, c'est celle qui voulait la révolution ou la transformation sur le lieu même du travail. Le syndicalisme révolutionnaire en était une version, l'autogestion est la nouvelle version. C'est la version la plus séduisante, mais jusqu'à présent, elle a toute la beauté des idées pures, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore de réalité.
C'était Le socialisme dans l'histoire avec Pierre Birnbaum, Raymond Aron, Michel Collinet et Yvon Bourdet dans Le Point du Septième Jour. Une émission proposée par Marcel Amrouche et Jean Rabaud le 27 février 1972 sur France Culture.